France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Un cinéaste, Alfred Hitchcock, un compositeur, Bernard Herrmann. Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann, on a tout dit. Dans le désordre Marnie, Les oiseaux, Psychose, L'amour aux trousses, Vertigo. Hitchcock avait trouvé son musicien. Pour preuve, voici, scène de douche comprise, le quatrième épisode d'une série de Fonia diffusée pour la première fois sur France Culture en février 1992.
Euphonia.
Hitchcock et ses musiques. Aujourd'hui, quatrième émission, Bernard Herrmann avec Jean Collet. Musique, mais qui a tué Harry ?
Mais qui es-tu, Harry ? Première collaboration Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann. Enfin, ils auraient dû collaborer ensemble à l'époque Selznick, mais Bernard Herrmann ne voulait pas travailler avec David Hall Selznick. Auparavant, Herrmann avait bien sûr été le musicien d'Orson Welles, d'abord pour la radio, puis au cinéma. Il a travaillé aussi avec d'autres metteurs en scène entre-temps. En particulier, citons un film admirable de Nicolas Ray, On Dangerous Ground, La Maison dans l'ombre. Et puis là, c'est, n'est-ce pas, Jean Collet, la première fois qu'ils se rencontrent, et ça va durer un moment.
Ce sont les premières mesures de Bernard Herrmann pour un film de Hitchcock. Moi, j'aime beaucoup là, le ton ironique, bucolique à la fois de cette musique. Et il faut se souvenir des magnifiques images du Vermont à l'automne qui démarrent en même temps qu'on entend le clocher, là. Après un générique en dessin animé qui est superbe.
Qui annonce une comédie un peu la Lewis Carroll, un peu curieuse.
Oui, un peu acide, un peu étrange, oui.
Et alors, ce qu'il y a, c'est que tout de suite, Hitchcock sent qu'il a trouvé là un peu ce qu'il cherche depuis longtemps, c'est-à-dire il a expérimenté avec Tiomkin, avec un genre, on a vu ça dans les émissions précédentes, on ne va pas revenir dessus. Et très curieusement, la première véritable expérimentation qu'il va faire avec Herrmann, c'est une musique pour un film, bien sûr, mais dans laquelle il va réutiliser une musique d'un film précédent. Je m'explique, il fait le remake de L'homme qui en savait trop.
Oui, oui.
Il reprend donc la scène du concert, la cantate d'Arthur Benjamin. Il demande à Herman de la re-orchestrer,
oui.
Si bien que celle que nous avons entendue lundi faisait 5 minutes, et là elle fait 10 minutes, avec également tenant compte des bruits de foule avant et des bruits de foule après. Et à la différence de la version première, l'idée de suspense qui n'existait pas véritablement par la musique elle-même, qui était le contrepoint avec les images de la version anglaise, ici elle est également incluse dedans. Rappelons brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas le film, ce qui m'étonnerait, que bon, quelqu'un doit tirer sur un premier ministre étranger pendant un concert...
À l'Albert Hall,
à Londres, cette bande d'espions tient en otage l'enfant d'une chanteuse américaine jouée par Doris Day, et elle se rend là, elle ne sait pas ce qui va se passer, elle devine, elle suit la musique et elle voit le revolver, elle sait qu'on va tirer, tant pis pour son enfant, elle crie et le coup de feu rate. Tout ça en 10 minutes, mais alors à la différence de notre version, là la musique de Herman fait partie de la mise en scène totalement, on va l'écouter pendant 10 minutes.
So is his assistant.
I must speak with one of them. Which are they?
Over there somewhere.
Nice little boy, madame. His safety will depend upon you tonight.
Where is he? Where is he? Is that the Prime Minister?
No, that's only the ambassador. His Prime Minister's the one with the bald head. I'm sorry, I'm looking for someone.
Alors là, ce qu'il faut quand même dire, c'est que quand il fait le remake, en effet, où la séquence fait le double du temps de l'autre, c'est une chose qui est arrivée en cours de tournage et en prévision montage. Ce qui est assez rare chez Hitchcock, c'est que dessiner les plans, vous
la musique tout,
avant.
Il prévoyait tout.
Oui. Alors l'anecdote que raconte Jim Stewart est tout à fait passionnante, c'est que pendant cette scène, donc pendant que Doris Day est en train de regarder, et vous allez parler de cette séquence tout à l'heure par rapport à la musique, il y a Jim Stewart qui arrive à l'Albert Hall et qui essaie de parler à quelqu'un, et il avait donc un texte extrêmement difficile à dire parce que c'était en se déplaçant, en courant d'un lieu à un autre, et c'est assez compliqué pour un comédien. Et Stewart, très professionnel, avait appris ce texte. Et quand il arrive sur le plateau, il répète, et puis Hitchcock lui dit « Oh Jimmy, I think we have to cut a little. » On va couper un peu dans le texte. « Ah bon ?» dit l'autre, il coupe un peu dans le texte. Puis encore un peu. Et puis au bout d'une après-midi de répétition et tout ça, il dit finalement « Ne dites rien du tout. » Alors Stewart n'est pas content, il tourne la séquence furieux parce que son texte, il ne le dit plus. Et quand il a vu le film fini, où il avait choisi que la musique était là, à la place, Stewart a été dire « Hitch, tu avais raison ». Bon, et je crois que ça, c'est capital
une,
à savoir.
C'est une histoire magnifique, elle illustre parfaitement Hitchcock. Chaque fois qu'il pouvait supprimer du texte et s'exprimer par l'image, il n'y manquait pas.
Et après, c'est par la musique.
Et par l'image à la fois. Alors, ce qu'il faut dire ici, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, et j'espère qu'ils le verront, c'est que cette musique qui est d'abord très, très majestueuse, très solennelle, elle est en contrepoint avec des images extrêmement angoissantes, où Doris Day ne sait pas qui est le tueur, elle l'a pressenti, ça, elle commence à le deviner. Elle ne sait pas qui va être la victime, elle commence aussi à le deviner, et tout va se jouer par les regards. Bon, finalement, Hitchcock, je crois que s'il fallait le définir par un mot, il faudrait dire c'est le cinéaste qui sait filmer des regards intelligents, des regards de personnages qui ont à être intelligents, c'est vital, leur vie est en jeu, ou ici la vie d'un enfant, hein, et il faut qu'ils comprennent. Alors ce qu'il fait merveilleusement, et que tant de cinéastes ne savent pas faire, c'est filmer un regard pensif, le regard de quelqu'un qui pense, qui comprend, et qui nous permet de comprendre en même temps. Là, il y a un plan magnifique pendant cette musique, c'est quand Doris Day voit le regard de l'assassin, elle suit ce regard de l'assassin qui se déplace et qui va rejoindre au bout de la salle le Premier ministre. Et là, elle a compris, retour sur elle, nous savons. Et évidemment, l'angoisse n'en est que plus grande.
Alors, en plus, ce qui est très fort, c'est que par rapport à la première version, il corrige une erreur qui était énorme et dont personne ne s'était rendu compte. C'est que dans la première version, la femme était championne de tir, elle connaissait rien à la musique. Donc elle suivait les éléments de la partition.
Alors là, elle est chanteuse.
Là c'est une chanteuse qui sait.
Voilà.
Et l'émotion qui naît en elle sur sa peur et tout, elle suit la musique. Et là, Hitchcock, sans le dire, nous laisse sous-entendre qu'elle sait qu'il va y avoir un moment, un crescendo, un climax, comme ambiguïté entre l'orgasme et le crescendo, et que là, il va y avoir le coup de cymbale, et il y aura un coup de feu là, et son cri le précède. Et alors là aussi, c'est que c'est filmé très frontal, très plan séparé.
Des plans fixes, très rythmés sur la musique.
Très rythmés. Et le seul moment où la caméra bouge, c'est pour suivre la partition en gros plan, chose que Truffaut trouvait admirable, ça a demandé 2 jours de travail, la partition. Et je crois que là, il a besoin donc de se ressourcer dans son passé, avec Herman, de refaire le même film. Et là, cette fois-ci, il comprend une chose qui va être démontrée par la suite dans ce que nous allons écouter aujourd'hui. C'est que lui, qui mettait rarement la musique seul, il fallait toujours des bruits avec ou des paroles. C'était pas le monsieur
à
mettre la musique, par moment, va être exactement comme plus tard ce que disait Sergio Leone par rapport à Morricone, c'est mon meilleur scénariste. La musique peut faire partie de toute la mise en scène.
Absolument.
Et ça, d'ailleurs, il n'y est pas arrivé tout de suite complètement. On a choisi 2 extraits, là. Un extrait de la fin de Vertigo, Sueur froide, et un extrait de la fin d'Amour aux trousses, North by Northwest. Qui sont 2 extraits avec le même système musical, le coup de feu, tout. Simplement, dans Vertigo, les personnages ont encore beaucoup à parler et à dire, et la musique peut se taire, alors que dans North by Northwest, que nous verrons, c'est un peu le contraire qui va se passer. Bon. Faut peut-être expliquer ce qui se passe dans Vertigo. On va pas raconter le scénario.
Ah oui, c'est un film très compliqué.
Et ça serait très long. Disons simplement que James Stewart monte avec Kim Novak un clocher. C'est un homme qui a le vertige. Il a découvert qu'elle lui avait menti, cette femme, et qu'en fait, elle est complice d'un meurtre. N'en disons pas plus. Au milieu du chemin, quand la musique va s'arrêter, qu'il crie, parce qu'on se rend compte qu'il a vaincu son vertige. Et là, il veut absolument monter jusqu'au bout avec
et
elle.
Et lui faire avouer qu'elle est complice de ce meurtre.
Et quand il monte, à un moment, l'amour est plus fort que tout, il oublie tout, il l'embrasse, mais un personnage sort de l'ombre, qui est en fait une bonne sœur, qui demande quoi, l'autre cri tombe à son tour, et la musique finit sur lui. Alors là, plus du tout en plan rapproché, dans cet escalier, mais très haut, vu, comme vu du ciel, où il est prisonnier à la fois de cette chape de musique et de vie.
On peut dire que c'est une montée au sacrifice, il y a quelque chose de...
C'est la tragédie de Lucifer, comme disait Doucet, très juste.
Absolument.
Alors là, donc, Vertigo. Musique superbe, on y va, c'est la fin.
I don't want to go in there.
Too late. I couldn't find her. And then I heard footsteps on the stairs. She was running up the tower. Right here.
Sight.
See, she was running up the stairs. And through the trap door at the top of the tower. And I tried to follow her, but I couldn't get to the top. I tried, but I couldn't get to the top. One doesn't often get a second chance. I want to stop being haunted. You're my second chance, Judy. You're my second chance.
Take me away!
You look like Madeline now. Go up the stairs.
No!
Go up the stairs. Go up the stairs, Judy. And I'll follow. I could get, but you went on. You remember? The necklace, Madeline. That was the slip. I remembered the necklace.
Let me go!
Now we're going up the tower, Madeline.
You can't, you're afraid!
Now we'll see. We'll see. This is my second chance! But you knew that day that I wouldn't be able to follow you, didn't you? Who was up there when you got up there? Elster and his wife?
Yes.
Yes, and she was the one who died. The real wife, not you. You were the copy. You were the counterfeit, weren't you? Was she dead or alive?
Dead.
When you...
Dead. He's broken her neck.
He'd broken her neck. Wasn't taking any chances, was he? So when you got up there, he pushed her off the tower. But it was you that screamed. Why did you scream?
I wanted to stop it, Scotty. I ran up to stop it.
You wanted to stop it. Why did you scream? Since you tricked me so well up to then, you played the wife very well, Judy. He made you over, didn't he? He made you over just like I made you over. Only better. Not only the clothes and the hair, but the looks and the manner and the words and those beautiful phony trances. And you jumped into the bay, didn't you? I'll bet you're a wonderful swimmer, aren't you? Aren't you? Aren't you? And then what did he do? Did he train you? Did he rehearse you? Did he tell you exactly what to do, what to say? You were a very apt pupil, too, weren't you? You were a very apt pupil. But why did you pick on me? Why me? I was the setup, wasn't I? I was the setup. I was a major or a witness. I was... I made it. I made it.
What are you going to do?
We're going up and look at the scene of the crime. Come on, Judy. Come on. And this is where it happened. And the two of you hid back there and waited for it to clear, and then you sneaked down and drove into town. Is that it? And then you were his girl, huh? Now, what happened to you? What happened to you? Did he ditch you? Oh, and Judy, with all of his wife's money and all that freedom and that power, and he ditched you. What a shame. And he knew he was safe. He knew you couldn't talk. Did he give you anything?
Yes, some money.
And the necklace. Carlotta's necklace. There was where you made your mistake, Judy. You shouldn't keep souvenirs of a killing. You shouldn't have been. You shouldn't have been that sentimental. I loved you so, man.
Buddy. I was safe when you found me. There was nothing that you could prove. When I saw you again, I couldn't run away. I loved you so. I walked into danger, let you change me because I loved you and I wanted you. Scotty. Oh, Scotty, please. You love me now. Keep me safe. Please.
It's too late. It's too late. There's no bringing her back.
Please. No. No.
I heard voices. God have mercy.
Bien sûr, nous avons parlé de ça, nous allons parler de la musique d'Herman et d'Hitchcock, mais auparavant, je crois que c'est un peu hors émission, mais il faut dire que si des gens vont au cinéma qu'une fois dans leur vie, c'est sans doute un des 10 plus grands films de l'histoire du cinéma, Vertigo, sueur froide, inoubliable, oui, sublime. Il oui. faut aller le voir, même si on n'aime pas le cinéma, on aimera ça.
Oui, et il faut dire aussi que ce film, il faut le voir absolument en version originale.
Travail sur les voix.
Ici, nous l'avons entendu donc sans aucune traduction. Et je pense que même pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, justement, ils sont peut-être privilégiés parce que comment ne pas être sensible à l'émotion qui passe à travers la voix des deux personnages? D'autre part, au rapport entre la musique et les parties de dialogue, hein, les parties de dialogue deviennent de la musique. Ces voix, elles disent l'émotion que la musique va dire autrement. Et il faut se souvenir que là, les deux personnages sont dans l'escalier d'un clocher qui est extrêmement vertigineux, d'où le titre original. Traduit assez bêtement en français par sueur froide.
Alors que c'est vertige.
C'est vertige, tout simplement. Et qu'il y a un motif annoncé dès le générique et qui va aussi structurer la musique, c'est le tourbillon. C'est le tourbillon,
la spirale,
ici, la spirale. Voilà. D'ailleurs, dans le générique, il y a un très gros plan inoubliable sur l'œil de Kim Novak, dont on se rapproche de plus en plus. Et à l'intérieur de cet œil, on voit un petit reflet qui se met à tourner.
Sauf que ce n'est pas Kim Novak.
Qui devient,
c'est Carlotta, c'est beaucoup plus vicieux.
C'est ça. Enfin, bon,
dans la mémoire, ça reste ça. C'est ça qui est intéressant.
Qui n'ont pas vu le film, c'est l'œil féminin de l'héroïne.
Histoire de l'œil.
Exactement. Et ce petit reflet va devenir une spirale. On dirait d'ailleurs, ces galaxies que l'on voit maintenant dans les télescopes, cette spirale qui tourne et qui va remporter les personnages. Mmh. Alors, il faudrait aussi parler de la verticalité dans ce film. Le héros, James Stewart, dans la première séquence, au cours d'une poursuite policière, il est policier, il s'accroche à une gouttière pour ne pas tomber d'un immeuble très très haut, et il y a un homme qui va mourir à sa place. Il y a des plans sur le vide là qui sont formidables, on ne peut pas les oublier. Et là, il se retrouve dans cet escalier avec cette femme, il va l'obliger à monter.
Ce que vous oubliez simplement, c'est que quand il a le vertige, il y a un morceau très particulier de la musique qui vient. Et là, je voudrais dire une chose, c'est que...
Il n'a plus le vertige.
Quand j'écoute ça aujourd'hui, après les émissions qu'on a faites avant, je me dis, c'est très curieux. Tout ce qu'avait amené Waxman, Wilcox Rocha, avec des effets sonores et tout, qui était de la musique, mais avec effets sonores accentuant ses idées, là, c'est pas simplement la musique normale qu'il utilise, avec un effet de musique, mais sans un instrument particulier. Et deuxièmement, ce qui est frappant, c'est que dans la séquence qu'on vient d'entendre, quand ils sont tous les deux, le dialogue, 90% des scientologiens à ce moment-là auraient mis un thème derrière musical.
Non, non.
Et que Hitchcock sait très bien à quel moment il a plus besoin de la musique.
Absolument,
et à quel moment il a plus besoin pour qu'elle revienne plus forte après. Et en fait, il a compris une chose avec ce film-là, plus que jamais. Avant, il le sentait, c'était théorique. Mais là, c'est fait, c'est que le silence est aussi de la musique au cinéma.
Bien sûr.
Et ça, c'est une merveille.
Le moment est assez fort. pour qu'on puisse se permettre un silence.
Oui, puis le culot de prendre une musique post-romantique, poème symphonique, tout en dedans impliquant toute la musique contemporaine.
Je pense que vous en avez parlé déjà au cours de cette semaine. Enfin, l'art du contrepoint chez Hitchcock, jamais la musique n'est en pléonasme avec l'action. Il mettra même tout son humour à placer une musique tendre sur une scène cruelle, etc. Enfin,
oui, mais alors là, justement... Avec Herman, c'est une suite de tentatives. Il y a un film dont on n'a pas
parlé, qui est
Le Faux Coupable, où le personnage est un joueur de contrebasse et que la musique va être extrêmement discrète, sauf quand elle devient vertigineuse, quand il y a le moment où le héros, Balestro, enfermé, la caméra se fait faire une chose que jamais ne ferait, qui tourne autour, des choses comme ça. Bon, après, il y a Vertigo, qui est le poème symphonique, le grand film mélodrame, mais qui dépasse tout cela de loin, qui est presque un film sur l'occultisme, d'ailleurs. Après, il fait une comédie, qui est L'Amour aux Trousses, qu'on va entendre, où là... Il se dit, mais
enfin,
on peut...
Comédie et film d'aventure.
Oui, on peut aussi peut-être, c'est ce qu'on va voir, faire très peu de dialogue. Et que la musique va mener complètement tout, mais non plus comme une musique entendue, comme dans l'homme qui en savait trop, dans un lieu où c'est une musique réaliste. Lui qui aimait les musiques réalistes surtout, là, il se paye le culot de dire, la musique, comme j'avais fait avec le Dilemma for Murder, c'est le spectateur.
Elle accompagne,
le regard et le sentiment.
Elle redevient beaucoup plus classique. Oui.
Et ce qui fait que quand on entend cette partition, qui est celle de la bande-son du film avec le texte, c'est fou, on est complètement dans la course sur les monts Rochemort tout autant.
Oui, et là aussi, les paroles se mêlent
Il y en a très peu.
À la musique.
Il y en a très très peu, on va voir ça.
Down.
We can't.
Here they come. We have no choice.
Get out of this alive. Let's go back to New York on the train together. All right?
Is that a proposition?
It's a proposal, sweetie.
What happened to the first two marriages?
Well, my wives divorced me.
Why?
Oh, I think they said I led too dull a life. Come on.
Thank you.
Sergeant.
That wasn't very sporting, using real bullets.
Here, reach. Now. Come on, I've got you. Up.
I can't make it.
Yes, you can. Come on.
Martyr.
Come along, Mrs. Thornhill.
Oh, Roger, this is silly.
I know, but I'm sentimental.
Alors, sur ce film, le dernier plan qu'on entend sur cette musique, c'est un train qui rentre dans un tunnel. Et on avait demandé à Hitchcock, vous faites du cinéma symbolique? Il dit non, dans toute mon œuvre, il n'y a qu'un seul plan symbolique, c'est celui-là. Si vous ne comprenez pas, relisez Freud. Bon, ce qui est une manière assez élégante de dire les choses. Non, là, ce qui frappe vraiment, c'est que c'est presque le contraire de ce qu'on a entendu avant avec Vertigo. Et c'est en même temps la même chose. Ça a l'air paradoxal de dire ça. C'est-à-dire que tout est possible à condition que la musique, ça soit la respiration du spectateur.
Oui, alors bon, je crois qu'on dirait qu'il prend le mot suspense à la lettre. Là, il prend deux personnages qui sont suspendus à une paroi rocheuse, les Monts Rushmore, et il y a toutes les chances pour qu'ils tombent, quoi. Et au fond, une phrase musicale, quand elle est bien construite, elle est elle aussi tendue, suspendue vers une résolution. Et là, il nous fait halter, il nous fait vivre dans cette attente et cet effroi, quoi. Je crois qu'il faudrait conseiller à tous les gens qui sont stressés d'aller voir des films de Hitchcock pour revivre leur stress, mais d'une manière qui permet de les digérer, de les assimiler. Finalement, il n'y a pas de plus belle définition de l'art que celle-ci. On dirait que c'est la quintessence de l'art, à la fois de la musique et du cinéma. Nous permettre de revivre l'angoisse, de revivre la difficulté de respirer.
Bah, disons de revivre la naissance.
Et la naissance.
Un grand thème hitchcockien.
Et la peur de la mort, enfin, tout cela, quoi, les grands passages de la vie, hein, et nous permettre de passer, car c'est ça finalement. Et ces personnages, on pourrait le voir aussi comme un film initiatique, hein, ils accèdent à ce passage. Alors ça nous ramène au train, si vous voulez, et au tunnel.
Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que bon, donc la peur. Et la peur et le meurtre. Et Hitchcock, quand on lui disait, mais vous montrez des assassinats, parce que c'est vrai, plus son œuvre avance, plus il montre les scènes d'assassinat, alors qu'avant, il était en ellipse. Et il avait cette phrase extraordinaire, il dit, vous savez, moi, je préfère que quand je montre un film devant 1000 personnes, il y ait 1000 assassins dans la salle en train de commettre le meurtre avec, et qu'il n'y en ait plus un seul dehors, que le contraire, où les gens sont frustrés de ne pas voir un assassinat. Et à ce titre-là, il a fait la scène la plus célèbre du cinéma d'Hitchcock, c'est celle qu'on va écouter maintenant.
Psychose.
On n'allait pas s'en priver. Psychose. Alors, on ne va pas raconter l'histoire, là, ça n'a aucune importance. Non, non. Dire qu'il y a une dame qui prend un bain, il y a
une douche,
exact. Vous voyez comment on peut se tromper. Et le rideau s'ouvre et il y a des coups de couteau avec une musique bien précise. Et ça commence par une brute chasse d'eau, ça finit par de l'eau qui tombe. Pourquoi j'ai voulu que ça commence par une brute chasse d'eau? Eh bien, là, c'est autre chose, c'est que pendant 30 ans, le cinéma parlant parlait depuis 30 ans. Il y a un homme qui avait fait entendre une chasse d'eau, c'était Jean Renoir, dans son premier film parlant, Purge bébé. Il a fallu attendre 30 ans à Hitchcock pour qu'il y ait de nouveau le bruit d'une chasse d'eau dans un film. C'était Hitchcock, et c'est par ça que commence la séquence de Psycho.
Thank you.
Alors, cette séquence est faite en une quantité de plans...
Oui, elle est très très découpée.
Très très découpée, et c'est le cas de le dire, car oui. C'est l'histoire d'un découpage avec les coups de couteau, et dans le son, quand on l'écoute seulement sans l'entendre, c'est drôle, parce que là, on a vraiment, à chaque coup de couteau,
elle est scandée,
bruit, on a l'image.
Oui, elle est scandée, oui.
Mais alors surtout, c'est-à-dire qu'on a l'impression que pour cette séquence, Hitchcock va jusqu'au bout, un, de l'abstraction, parce que c'est
tout assez
abstraite, et deux, surtout, de dire, eh bien, puisque je fais un cinéma découpé, faisons de la musique au couteau. Et c'est pas tout à fait un jeu de mots, des déchirures, cette musique qui arrive, et c'est tout le contraire de ce que faisait Herman avec lui avant, tout le processus lyrique qu'il abandonne à ce moment-là, qui reviendra dans Marnie seulement, on verra, et qui est lié à une idée qui courait chez Hitchcock depuis le début de sa carrière, et qui était très très marquée, et les extraits qu'on a pris exprès, coup de feu ou meurtre, étaient liés, c'est l'idée d'une musique qui ferait peur et qui soit pas forcément une espèce de gros moment wagnérien, et l'idée du cri.
Mais qui est presque une musique concrète, parce que là, elle imite les cris, c'est une stridence, et d'autre part, et vous avez très bien choisi ce morceau, justement, en commençant par la chasse d'eau, et en finissant par le bruit de la douche, pendant toute la séquence, on entend cette eau couler, et d'ailleurs, quand on ne voit pas l'image, on pourrait penser que c'est de la pluie. Enfin, c'est la douche qui continue, qui vient tout au long de ce morceau qui est très 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 découpé par la caméra. Alors, je veux dire une chose.
Il y a une chose que je veux dire très vite. Il y a un psychanalyste qui a dit une chose intéressante sur cette séquence. On peut la refuser ou non, mais c'est intéressant que l'auditeur le sache. La manière dont on entend le son là, il a dit c'est drôle, ça ressemble un peu à ce qu'on imagine que les enfants entendent dans le ventre des parents son. Et comme la scène est complètement sur l'eau, et que le thème c'est quelqu'un qui veut revenir sa mère et qui tue, Hitchcock s'intéressait beaucoup à ce qu'il a fait de là, ça aboutit à Marnie, ça n'est pas innocent, parce que là il le met le spectateur dans la situation... où la salle de spectacle où il se trouve est comme un ventre aussi et qu'il regarde une espèce de vie. Là, il va jusqu'au bout du processus avec cette audition bizarre, ces images agressives qu'il a, comme l'agression, tout enfant sort en pleurant. Et ça, il en avait pris conscience. Et quand il y avait Herman, il avait justement dit « Quand je veux des musiques de ce type, je veux des musiques qui éveillent à la vie, même quand on tue. » C'est un terme qu'il employait.
Oui, mais comme tout grand artiste, il est abstrait, vous l'avez dit. Et justement, il peut traiter l'extrême violence sans aucune complaisance. Là, ce meurtre, finalement, on le voit et on ne le voit pas. On le ressent, on le rêve, mais on ne voit rien. On ne voit que des plans tellement rapides, il n'y a rien à voir.
Mais qu'est-ce que l'imaginaire voit ?
Mais exactement. Mmh. Mais c'est ça qui nous libère aussi. C'est nous qui faisons le film.
Le meurtre.
C'est nous qui commettons le meurtre. C'est ça. C'est ce que beaucoup de cinéastes ne comprennent pas. Plus il y a de choses sur l'écran, moins c'est intéressant. Il faut, avec le minimum d'images, provoquer le maximum d'effets. Et c'est ce qu'il a très bien compris. Et d'autre part, c'est un cinéma métaphorique, c'est-à-dire que c'est pas seulement un meurtre qu'il filme, c'est peut-être aussi une scène d'amour. Truffaut l'a dit superbement, chez Hitchcock, les scènes d'amour sont filmées comme des scènes de meurtre, et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Donc, il nous révèle l'ambivalence profonde de nos sentiments, où on a envie d'aimer et on a envie de dévorer à la fois.
Donc, agression.
Voilà, exactement. Et, alors, ça nous fait vivre des états extrêmement ambigus, complexes, très difficiles à énoncer. C'est pour ça que la critique est toujours maladroite avec Hitchcock, parce que on dit une chose, mais l'image, elle en dit 100 autres qui sont tout aussi intéressantes.
Et là, il va jusqu'au bout de son idée du cri, parce que on l'a déjà rappelé dans les émissions précédentes, le cri en opéra, c'est à la fois le cri de jouissance et le cri de mort.
C'est ça, les deux.
Et là, c'est complètement ça. Et alors, après ce film-là. Il est évident, il est arrivé, je veux dire, pas à une impasse, mais à autre chose. Et quand il va faire Les Oiseaux, et dans Les Oiseaux, il n'y a pas de musique au sens habituel du mot musique.
Non, il va de plus en plus vers l'abstraction.
Vers l'abstraction, la musique, disons, des sons électroniques. Et simplement, le seul moment où il y a également quelque chose qui peut être, entre guillemets, de la musique, c'est une chanson que chantent des enfants. Et cette chanson est très répétitive, exactement, et fera penser à ceux qui ont entendu l'émission d'hier, au mouvement perpétuel de Poulenc qui est dans la corde. Et qu'il va casser... cette musique, elle a continué par les sons électroniques et les cris et le klaxon. On va entendre cette longue séquence qui annonce d'autres tentatives de genre qui fera par la suite encore et je crois qu'elle montrera justement toutes les facettes de la collaboration avec Herman et Herman étant un metteur en scène associé au metteur en scène Hitchcock et pas simplement un grouillot de service.
Voilà, on peut dire quand même que Bélanie Daniel est devant une école, qu'elle s'assoit sur un banc, qu'on entend dans l'école les enfants qui chantent cette comptine et que derrière elle, elle ne les voit pas, mais nous les voyons. Il y a un corbeau, puis deux corbeaux, puis trois, etc., qui viennent se poser...
Sur une cage à poules.
Des barres de fer, une cage à poules. Et nous savons que, et elle le sait aussi, qu'ils sont méchants, ils sont redoutables, ils peuvent tuer.
Voilà. Et c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs. On va entendre ça, c'est marrant.
We are not going into the playground until everybody has quieted down.
Close that door quickly.
What?
Please.
What is it?
Look. We've got to get the children out of here.
All right, children, now quiet. Quiet. Miss Daniels would like to see how we conduct ourselves during the fire drill. I would like you to show her how quiet and obedient you can be. We're going out of school now. I want those of you who live nearby to go directly home. I want the rest of you to go down the hill all the way to the hotel. Now, is that clear? Melanie? I want you to go as quietly as possible. Do not make a sound until I tell you to run. Then run as quickly as you can. Now, does everybody understand?
Yes.
All right, John, you lead the way.
voilà qui prouve que, malgré sa réputation de faire de grands succès et d'être, comme on disait à une époque, un faiseur d'argent commercial, que Hitchcock est peut-être l'un des plus grands cinéastes expérimentaux de l'histoire du cinéma. Il expérimentait toujours. Et là, avec Herman, on l'a vu dans tous les extraits, et celui-ci en particulier, il a trouvé le complice idéal.
Absolument. Là, on sent bien l'harmonie qu'il est... qui les a rassemblés, c'est que, voilà, pour créer le suspense, il va choisir une comptine. Alors, c'est quoi une comptine? C'est une musique qui n'aboutit pas. C'est une musique qui est fermée, qui est en boucle.
Qui est perpétuelle.
Oui, mais justement, elle ne peut pas, c'est comme quelqu'un qui est enfermé dans une pièce, qui cherche l'issue et qui ne trouve pas la porte. Alors, ce qui est très beau, c'est que l'image, à côté de ça, est une image en extérieur. Mais le personnage ne peut pas bouger. D'abord, elle ne sait pas qu'il y a un danger derrière elle. Nous le savons. Donc, c'est nous qui sommes enfermés à sa place. C'est nous qui avons peur à sa place. Et quand la scène va se résoudre, après l'arrêt de la comptine, il y a un silence magnifique, là. Il sait jouer sur ce silence. À ce moment-là, il va y avoir les cris. Ces cris obtenus par des instruments électroniques qui imitent les oiseaux, qui vont être orchestrés, qui vont se multiplier avec les battements d'ailes. Hein. Les enfants qui, eux-mêmes, sont comme des oiseaux, crient. C'est une espèce de gigantesque basse-cour. Hein. Et la seule résolution, là, c'est dans la violence, dans l'agression. Les oiseaux qui vont piquer sur les enfants, il faut se souvenir de ces images. Donc c'est un magnifique travail, à la fois sur le son, sur le silence, sur la musique, et Hitchcock montre qu'il n'y a besoin d'aucun dialogue pour produire les effets les plus puissants.
Et puis surtout, ce qui est très curieux, c'est que cette espèce de volonté de choix, de hachure et de coupure, va avec les meurtres, parce que les meurtres sont à coups de feu, puis il y a beaucoup de meurtres par strangulation chez Hitchcock, encore dans Vertigo, elle a été la véritable femme du type, enfin on ne va pas raconter. Bon, mais à partir de L'amour aux trousses, c'est le coup de couteau qui tombe sur le diplomate qui implique Cary Grant dans l'histoire, Psychose sont les coups de couteau, Bird ce sont les coups de bec, et de nouveau il y a quelque chose qui vient où il veut être de plus en plus violent. Et vous avez dit une chose qui paraît importante, c'est que non seulement les images nous fascinent et nous obligent à rester dans cette salle de cinéma pendant ce suspense terrible, nous ne sortirions pour rien, mais la répétitivité de cette comptine, cette musique nous agace et nous oblige à rester. C'est-à-dire, ça me fait penser à ce que certains disaient sur Godard dans le temps, pas le Godard maintenant. Ils disaient, on dit Godard agace, mais les gens n'osent pas sortir de la salle. Parce que le son, ce Godard est très important, il fait rester également. Et c'est vrai que cette idée de répétitivité de cette chanson qui n'en finit pas, en dehors même des images, ça nous agace. Nous, on ne peut pas couper. On est prisonnier.
Il y a un mot qui s'impose, on est sous hypnose. Là. Cette rengaine, comme toute perception qui est fixe, qui est répétitive, elle nous fascine. Nous sommes là fasciné, médusé. Bon, alors Hitchcock là est un très très grand manipulateur, mais ce mot est très ambigu. Il nous manipule aussi pour nous libérer. Je crois qu'il nous fait revivre des situations dont il faut trouver l'issue, et il nous aide à la trouver.
Oui, et puis comme nous verrons dans l'émission suivante, il sait manipuler la musique totalement et le son là-dessus. Pour conclure, on va juste écouter, on n'a pas le temps d'en parler, le générique, la musique générique de Marnik et son dernier poème symphonique avec Bernard Herrmann. C'était Euphonia, Hitchcock et ses musiques. Quatrième émission, Bernard Herrmann avec Jean Collet. Demain, cinquième et dernière émission, après Herrmann avec Georges Schneider. Réalisation Julien Besse, Christiane Jonca, Marianne Manès.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 février 1992. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, cinquième et dernier épisode de la série, l'après Herman.